Voilà, alors nous allons continuer à lire donc la lettre, l'exhortation apostolique du pape François sur la joie de l'Évangile. Alors si vous voulez la voir, n'hésitez pas, ça vous permettra de suivre un peu. Je vais suivre grosso modo le plan de la lettre. Et donc cette année, cette fois-ci, donc, je vais parler des défis du monde actuel. C'est le début du chapitre 2. Alors, vous situez un peu dans le mouvement de l'exhortation de la lettre du pape. D'abord, il a parlé de la transformation missionnaire de l'Église au chapitre 1. Donc, cette perspective de l'Église qui est faite pour annoncer le nom du Seigneur, pour... voilà, et toutes les transformations au niveau intérieur de l'Église que ça suppose. Là, maintenant, il passe à un autre point, donc c'est plutôt donc l'Église intérieurement doit être prête à annoncer l'Évangile, mais on n'annonce pas l'Évangile de façon intemporelle. On s'adresse à des gens bien chers en os, qui vivent dans une époque, etc. Donc c'est pour ça qu'il prend le temps de voir un petit peu les défis du monde actuel pour annoncer vraiment, pour que notre annonce soit pertinente. Alors au début, il fait appel à une expression. Alors je ne sais pas si vous êtes accoutumé à cette expression, il parle des signes des temps. Alors, cette expression, elle vient de l'Évangile, Jésus qui invite à discerner les signes des temps. Elle était, on pourrait dire, popularisée par Jean 23. Alors, je peux peut-être vous reprendre le passage de l'Évangile. C'est au début du chapitre 16 de saint Matthieu. Les pharisiens et les sadducéens s'approchèrent alors et lui demandèrent pour le mettre à l'épreuve de leur faire voir un signe venant du ciel. Il leur répondit, au crépuscule, vous dites, il va faire beau temps, car le ciel est rouge feu, et à l'aurore, mauvais temps aujourd'hui, car le ciel est un rouge sombre. Ainsi, le visage du ciel, vous savez l'interpréter, et pour les signes des temps, vous n'en êtes pas capable. Génération mauvaise et adultère, elle réclame un signe, et de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Et les laissant là, ils s'en allaient. Voilà, alors, donc les signes des temps, alors le pape Jean 23 a popularisé, on pourrait dire, cette expression. Elle était reprise par Paul VI, par le Concile Vatican II. Voilà, par exemple, ce que disait Paul VI. L'expression popularisée par notre prédécesseur Jean 23 à Giornamento nous restera toujours présente pour exprimer l'idée maîtresse de notre programme. Nous avons confirmé que telle était la ligne directrice du Concile et nous le rappellerons pour stimuler dans l'Église la vitalité toujours renaissante, l'attention constamment éveillée aux signes du temps et l'ouverture indéfiniment jeune qui sache vérifier toute chose et retenir ce qui est bon en tout temps et en toutes circonstances. Alors donc, c'est pas par hasard que le pape François donc se réfère à cette expression, les signes des temps, c'est donc cette ouverture, comme le disait Paul VI, l'attention justement à ce qui se passe dans le monde, pour pas simplement que notre annonce soit plus pertinente, mais aussi pour discerner la présence de Dieu. Voilà, comment Dieu se rend présent à notre époque. Pour aussi peut-être comprendre d'une façon nouvelle la parole de Dieu qui nous est donnée, mais qui est actuelle aussi pour nos jours d'aujourd'hui. Alors, cette expression « signe des temps » sur les lèvres de Jean 23, ça a aussi une connotation positive. Parce que certaines personnes, en voyant tous les malheurs du monde, ont tendance à pleurer et puis à se lamenter, voilà le monde tel qu'il est aujourd'hui. Alors pour une part ça peut être juste, mais pas complètement. Et Jean 23 réagissait beaucoup contre ça. Certes, il y a des choses qui ne vont pas dans le monde, ça c'est un peu plus évident, mais aussi de voir aussi ce qui va et comment Dieu travaille ce monde, même si c'est quelquefois un peu difficile à le voir. Mais donc il y a une connotation positive à cette expression « signe des temps ». Et « signe des temps », ce n'est pas simplement un travail intellectuel pour percevoir quels sont les signes des temps, c'est aussi dans la prière, c'est aussi par rapport aux personnes justement qui vivent selon l'Évangile. Hein, c'est une perception spirituelle aussi, une perception spirituelle dans le sens, c'est l'Esprit Saint qui nous permet de percevoir ces signes des temps. Alors, c'est dans la mesure justement où on est ouvert à l'Esprit Saint que voilà, qu'on pourra voir les signes des temps. Hein. Dans la controverse que je viens de vous citer dans le passage de l'Évangile, c'est tout à fait ça. Il y a les pharisiens et les sadducéens qui viennent à Jésus, mais il dit, mais vous savez, alors il parle aussi des signes dans la nature, mais pour dire, mais le signe de la présence de Dieu aujourd'hui, ça vous ne pouvez pas le voir. Alors, donc, voilà, c'est le pape va énoncer un certain nombre de défis dans cette partie, mais c'est pas de façon purement négative. Hein, c'est de voir, ben voilà, qu'est-ce que Dieu veut nous dire à travers ce qui se passe aujourd'hui. Un autre élément que je voulais, sur lequel je voulais m'arrêter, alors vous me direz après si le mode de procédé vous convient ou pas. Je lis pas littéralement les passages, mais je m'arrête à certains aspects qui me paraissent importants. Le pape dit qu'il va essayer de faire œuvre de discernement. Ce que j'entends offrir va plutôt dans la ligne d'un discernement évangélique. Là, vous savez tous que le pape est jésuite. Hein. Et les jésuites donc, ont été fondés par Ignace de Loyola. Et alors, est-ce que vous savez un petit peu, ou est-ce que j'enfonce des portes ouvertes, comment Ignace de Loyola a appris un peu à discerner? Alors, c'est grâce aux Français qui lui ont envoyé un boulet de canon. Du coup, il avait la jambe cassée. Et du coup, il était dans son château, donc il aimait plutôt de la littérature, voilà, qui l'aidait à rêver, etc. Et il rêvait plutôt à des prouesses militaires, etc. Et puis, au bout d'un moment, il a terminé tous les livres. Donc, il a dû se rabattre sur des vides saints et sur la parole de Dieu. Mais alors, à cette occasion-là, il a expérimenté que quand il lisait des livres avec des prouesses militaires, ça l'enthousiasmait, et puis après, ça l'enthousiasmait beaucoup, mais après, ça retombait, et puis voilà. Tandis que quand il lisait des vides saints, ça l'enthousiasmait, peut-être un petit peu moins, mais après, ça lui laissait ça le laissait vraiment dans la paix. Alors, c'est ainsi qu'il a pu commencer à réfléchir sur ce qui se passait en lui. Donc ça, c'est typique du discernement ignatien. C'est, donc l'oraison a une bonne place dans le discernement ignatien. Habituellement, bien sûr, on parle de la parole de Dieu, mais après, on voit comment elle résonne en nous. Et selon les personnes, elles résonnent un peu différemment et ça nous permet de discerner justement ce que Dieu attend de nous. Alors c'est comme ça que Ignace, petit à petit, a mis au point ces exercices spirituels, alors qu'ils sont donnés encore aujourd'hui par des jésuites. C'est quelque chose qui a fait ses preuves. Alors c'est un aspect, pour une part, un peu subjectif, dans le sens où c'est la personne qui discerne selon ce qu'elle peut percevoir. Mais après, bien sûr, il y a un élément objectif qui intervient dans ce discernement quand on a un père spirituel, quand on a qui nous aide, quand on a aussi une réponse de l'Église. Je prends l'exemple. Dans la prière, je perçois que le bon Dieu m'appelle à être prêtre. Mais après, s'il n'y a aucun évêque qui m'estime apte au sacerdoce, ben voilà, ça se réglera là. Hein. Le discernement, il passe bien sûr parce que j'éprouve, mais aussi par un élément extérieur qui vient me confirmer dans mon discernement aussi, bien entendu. Donc il y a toujours les deux éléments à prendre en compte. Mais alors, ce qui est très important, je trouve, dans ce discernement de Saint Ignace, ça suppose vraiment un travail intérieur pour se décentrer de soi-même. Tant qu'on est centré sur soi, on ne peut pas vraiment discerner la volonté de Dieu. Ça suppose de mettre de l'ordre dans notre vie, dans nos passions. Quand on est très passionné, ça nous est difficile de discerner vraiment ce que Dieu veut pour nous. Alors, bien, les passions ne sont pas mauvaises en tant que telles, c'est plutôt quand elles nous emmènent là où on ne voudrait pas forcément aller, parce que notre intelligence n'a plus assez la maîtrise. Elles doivent toujours être sous la conduite, on pourrait dire, de notre pensée, de ce qu'on pense être bon. Hein, ce n'est pas les passions elles-mêmes qui doivent nous guider. Alors, elles peuvent être un élément, bien sûr, et puis, bien sûr, les passions ne sont pas mauvaises en tant que telles, dans la mesure où elles sont ordonnées. Et alors, ces exercices spirituels de Saint Ignace sont vraiment une invitation à prendre le temps de mettre de l'ordre dans nos passions pour être vraiment disponible. Alors, il parle d'indifférence, mais c'est pas l'indifférence dans le sens de je m'en foutisme, bon, j'ai aucun désir, c'est pas ça. C'est je suis disponible pour aller à droite ou à gauche selon que le Seigneur m'indiquera. Du coup, ça suppose un détachement par rapport à tous nos désirs, etc. Et alors, c'est tout un travail, mais qui est important pour le discernement. On le voit aussi. J'avais travaillé un moment un petit peu cette question-là aussi pour le discernement communautaire. Quand on doit discerner quelque chose en communauté, si chacun tient mordicus à son point de vue, on n'avancera pas. Et ça suppose de discerner ce qui est bien, mais pas forcément mais d'aller au-delà des passions, parce que sinon on n'avance pas pour discerner. Pour discerner, ça suppose soi-même d'être, quand on doit prendre un choix communautaire ou conjugal, voilà, d'être disposé à écouter l'autre, à entendre aussi ce que l'autre peut nous indiquer. Sinon, le discernement est impossible. Et vis-à-vis de Dieu, c'est la même chose. Si je suis tellement pris dans mes désirs et que je ne suis pas capable d'avoir cette ouverture à ce que Dieu me proposera, qui n'est pas forcément spontanément ce que j'aurais choisi, je suis incapable de... Je ferai ma volonté, mais je ne ferai pas sa volonté à lui. Saint Ignace parle à un moment du sacrifice d'Isaac ou du sacrifice d'Abraham. À un certain moment dans notre discernement, voilà, on a un désir, voilà, mais on le remet à Dieu comme Abraham a remis son fils Isaac, qui lui a été redonné, en quelque sorte, mais d'une façon nouvelle. Mais il avait... C'est toujours un moment quand même difficile d'être prêt à renoncer à ce à quoi on tient le plus. Mais le discernement suppose ça. Si on veut vraiment discerner dans ce qui vient de Dieu, il faut être prêt à se détacher de tout. Et ça, c'est pas seulement pour les personnes consacrées, c'est pour tous, pour tous les chrétiens. Alors, ça ne veut pas dire que le Seigneur nous l'enlève, forcément, après, mais ça nous donne une liberté, voilà. Le discernement suppose une liberté pour pouvoir vraiment discerner ce qui vient de Dieu. Alors, du coup, le pape François, donc, fait souvent référence à cette question du discernement. Et alors, il y a tout cet arrière-fond chez lui où il a... justement, où il est pétri de Saint Ignace de Loyola et des exercices spirituels. Alors, je ne rentre pas plus en détail, d'abord parce que je ne suis pas assez compétent en matière, mais bon, si vous voulez, on pourra approfondir un peu les choses. Dernier élément, pour ce discernement, il faut quand même un peu de temps. Je ne sais pas si je penserai à le redire encore aujourd'hui, mais du coup, je l'aurai au moins dit une fois. Le discernement, ça prend du temps. On ne discerne pas comme ça dans la seconde, habituellement. Bon, sauf si on y a le feu, voilà, on prend l'extincteur et puis voilà. Mais souvent, ça demande un petit peu de temps pour voir un peu ce qui se passe en nous. Et toutes les décisions, je le remarque beaucoup dans la vie communautaire, c'est bien de laisser du temps. Ça vaut pour des choses diverses et variées. Donc il y a les travaux qui sont en cours à la Grande Chapelle. Et alors après, la chapelle sera disposée un peu différemment. Alors, ça me semblait important aussi qu'on puisse discerner en communauté, parce que qu'on soit paisible avec le nouveau projet. Il y avait déjà une proposition qui était faite, mais qui n'était pas allée vraiment jusqu'au bout. Alors du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a aussi, pour que ça soit un peu concret, vous avez vu l'hôtel se déménager un petit peu au cours des dernières années, après la place de celui qui présidait, qui s'est déménagé. Et on avait quelques semaines entre les deux pour que les frères disent un petit peu comment ils voyaient les choses. Au moins, c'était un petit peu concret. Et voilà. Et j'ai trouvé que c'était assez bien parce qu'au début, il y avait des avis quand même assez divergents. Voilà. Et petit à petit, on arrive à une solution qui n'est pas parfaite, qui est discutable, qui n'est pas parfaite, mais qui fait une certaine unanimité. Et du coup, en tout cas, ce qui est important au niveau communautaire, c'est que ce n'est pas quelque chose qui va nous... On va s'étriper, et parce qu'on restera avec des frustrations, etc. Mais on voit que raisonnablement, de toute façon, il faut bien arriver à une solution. On ne peut pas avoir deux solutions en même temps. Et puis que, voilà, ça semble convenir, grosso modo, avec le possible. Hein, parce que tout n'était pas possible. Et puis après, il y a d'autres contraintes. Bon. Et puis, voilà, alors, ce temps de discernement a demandé du temps. Du temps aussi, parce qu'on a besoin de se faire à l'idée, quelquefois, de dire, ah oui, peut-être finalement, cette manière de voir n'est pas si stupide que ça, même si au premier abord, je n'aurais pas... Voilà. Et, alors, voilà. Ça, alors, on... Vous pensez sans doute à ce passage de l'Évangile qui a inspiré le père Caffarel quand il a fondé les équipes Notre-Dame. Il a prévu le DSA, le devoir de s'asseoir. Et vous savez de quel passage de l'Évangile se réfère le devoir de s'asseoir? Alors je vous lis, ça me donne l'occasion. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose des fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000? S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Voilà. Donc c'est en Saint-Luc chapitre 14, versets 28 à 33. Voilà, mais ce temps de s'asseoir pour discerner. Alors c'est ce que propose le pape au début de... vers le début, en tout cas, de ce document. Vous remarquerez que pour l'encyclique sur l'écologie, il procède un peu de la même manière. Il fait d'abord un audit, il regarde un petit peu tout ce qui se passe, et puis après, à partir de là, il propose différentes choses. Mais la première étape, c'est de s'asseoir pour regarder comment sont les choses. Donc, dans cette partie, il va aborder différents défis. Alors j'aime bien, alors je suis toujours dans mon introduction, on va y arriver avant la fin, mais c'est cette... peut-être juste un petit mot avant d'enclencher sur la question des défis, c'est sur la prudence. Est-ce que vous avez des... Vous savez comment saint Thomas d'Aquin envisage la prudence? Il dit qu'il y a trois actes dans la prudence. Vous savez un peu ça? Donc, ce n'est pas inutile que je le dise. Trois actes dans la prudence. Le premier, c'est le discernement, justement, de prendre conseil pour voir toutes les possibilités, pour voir, prendre le temps de s'asseoir tranquillement. Après, c'est de choisir une voie. Il ne suffit pas de... Parce que dans notre esprit, quelquefois, le prudent, c'est celui qui réfléchit beaucoup. Mais ce n'est pas toujours vrai. Quelqu'un qui réfléchit beaucoup mais qui ne prend jamais de décision, il n'est pas prudent. Hein, donc c'est d'abord ce temps de la réflexion pour voir toutes les possibilités, après en choisir une, ne pas rester comme l'âne devant qu'est-ce qu'il va prendre, mais voilà. Et troisième élément de la prudence, c'est le mettre en acte, passer à l'acte. Et le prudent, c'est celui qui a les trois en même temps de façon équilibrée. Celui qui réfléchit indéfiniment, mais qui ne choisit pas, qui ne passe pas là, qui n'est pas du tout prudent. Parce que la prudence, c'est vraiment les trois groupés de façon équilibrée. Celui qui passerait à l'acte avant d'avoir réfléchi, il n'est pas prudent non plus. Hein, vous voyez bien. Mais c'est très important parce que si je veux acheter une voiture, voilà, alors je fais tous les concessionnaires des... Voilà... Ah, je vois le modèle qui me plairait, mais tant que je ne vais pas, avec mon portefeuille, aller chercher, je ne suis pas prudent. Il faut arriver à quelque chose aussi. Donc, c'est juste, quelquefois, ça nous éclaire dans notre manière de procéder, selon la manière dont on est fait. Soit on s'adapte sur la première, le premier moment, on réfléchit indéfiniment, mais on ne décide jamais. Soit on décide, mais avant d'avoir vraiment pris le temps de voir les différentes possibilités, au moins pour des décisions importantes, on ne va pas passer son temps à réfléchir pour les bricoles de la vie. Et puis d'agir. Il ne suffit pas d'être dans sa tête. Il faut après être dans le réel et dans l'action. Enfin, Alors c'était juste au passage avant de parler des défis. J'aime bien cette manière du pape François d'aborder. Il n'est pas du tout dans la ligne, un peu comme Jean 23, de se lamenter, de se plaindre. Pour lui, il voit il y a sept défis. Il évoque sept défis, sept. Je vais vous les lire. Alors, il y a sept paragraphes, donc on voit sept sous-chapitres, on pourrait dire. Non à une économie de l'exclusion, non à la nouvelle idolâtrie de l'argent. Non à l'argent qui gouverne au lieu de servir, non à la disparité sociale qui engendre la violence, quelques défis culturels, les défis de l'inculturation de la foi et les défis des cultures urbaines. Voilà. Mais au lieu de se lamenter sur l'idolâtrie de l'argent, par exemple, il le reçoit comme un défi. Et cette manière de se situer, je la trouve intéressante parce que devant les difficultés, on a plusieurs manières de réagir. On peut faire l'autruche en faisant comme s'il n'y avait pas de difficulté. Alors, c'est une certaine manière de fuir. Du coup, on suit la voie de tout le monde et puis on ne se pose pas de questions. Voilà, ça, c'est une manière. On ne veut pas trop voir les défis, finalement, ou les difficultés. Parce que après ramer à contre-courant, ce n'est pas agréable. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une première manière, c'est de faire l'autruche. Finalement, c'est plus confortable de rien voir. Et finalement, c'est la solution de pas mal de monde. On s'abrutit un petit peu dans le divertissement ou dans... Voilà, et puis c'est un peu la fuite en avant, sans trop réfléchir, parce que sinon, quand on commence à se poser des questions, ça nous complique la vie. Ça, c'est une première manière. Une deuxième manière, c'est de se plaindre, se lamenter, de pleurer sur les malheurs, et d'être un peu résigné, enfin, mais... Et la troisième manière, qui est plutôt la manière qu'adopte le pape François, c'est Voilà, considérer ça comme des défis et agir en conséquence. Et si le pape François se situe de cette manière-là, alors certainement humainement, il est plutôt combatif, je pense, mais aussi c'est parce qu'il est habité par l'espérance. Nous, nous savons que on ne reste pas les bras ballants là devant le monde qui s'en va à sa perte en disant bon voilà, il n'y a plus rien à faire et puis on pleure. Non, on sait que Dieu n'est pas absent. Donc c'est aussi parce qu'il est animé par l'espérance qui dit non. Bien sûr qu'il y a des difficultés, mais je les considère comme des défis à relever. Voilà pour mon introduction. Enfin, le commentaire à ma manière de l'introduction du pape François pour cette partie. Après, donc, on va passer aux différents défis, on va énumérer les différents défis qu'il évoque. Le premier défi qu'il souligne, c'est celui de l'exclusion. Non à une économie de l'exclusion et de la disparité sociale. C'est les numéros 53 et 54. Alors, il parle beaucoup de l'économie. C'est un sujet qui lui tient à cœur. D'ailleurs, en préparant, j'ai pu me rendre compte que finalement, Jésus parle souvent d'économie dans la vie, dans le Nouveau Testament. Il ne parle pas beaucoup de politique, mais d'économie beaucoup. Dans l'Évangile, ça revient. Les comparaisons, alors je vous dis celles qui me reviennent à l'esprit, simplement, bon, la parole des talents, il y a quelque chose, le trésor, le débiteur impitoyable. Alors, et si Jésus prend ces images de l'économie et quelquefois essaie de nous faire comprendre quelque chose au niveau spirituel à partir de l'économie, c'est que l'économie, ça nous concerne tous et c'est plus concret à nos yeux. Voilà. En tout cas, donc, le pape parle de l'exclusion, de la compétitivité, de la culture du déchet. Il y a des expressions que le pape reprend très très souvent. Quand il parle de l'exclusion, ça c'est un mot qui revient souvent sur ses lèvres, sur la compétitivité, la culture du déchet, ça vous l'avez sans doute entendu déjà. Mais alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Alors, je suis tombé en regardant, je sais pas comment vous faites, de temps en temps, j'implore Saint Google. Et j'avais dû mettre exclusion et compétitivité pour voir ce qu'il disait. Et alors, je suis tombé sur quelque chose en écologie. Le principe de Gauss, vous savez ce que c'est? Voilà. Alors, j'ai trouvé que c'était assez parlant, en fait. Alors, je vous lis. En écologie fondamentale, et plus particulièrement en biologie des populations, le principe de Gauss, ou principe d'exclusion réciproque, ou principe d'exclusion compétitive, est un principe de dynamique des populations basé sur une expérience de Gauss réalisée en 1934 sur les paramécies. Il stipule que les populations de deux espèces ayant des exigences écologiques identiques, c'est-à-dire exploitant une ressource limitante unique, ne peuvent coexister indéfiniment dans un milieu stable et homogène. La plus compétitive des deux espèces finissant en plus ou moins long terme par éliminer l'autre. Et quelque part, je trouve que c'est assez parlant pour le monde économique tel qu'on le vit. La compétition, si on est laissé comme les paramécies, on élimine l'autre. Et c'est ça l'exclusion dont parle le pape François. Alors, il peut y avoir une bonne compétitivité dans le sens où notre but c'est pas l'extermination de l'autre pour être le seul à exister, mais dans l'économie telle qu'elle est aujourd'hui c'est quand même assez ça. Et alors il y a un économiste, oui, allez-y.
l'une enlève l'autre, ou quand les choses sont tellement dissemblables que l'une enlève l'autre. Parce que votre principe de gauche n'a rien compris.
Oui, alors le principe de gauche, c'était sur les paramécies. C'était de dire que quand il y a. Bon, je vais prendre cette image-là. Il y a un stock de nourriture pour tout le monde. S'il y a cette compétitivité qu'il y a entre deux populations va faire qu'une des deux populations va être éliminée. Parce qu'il y a une compétitivité aveugle, en quelque sorte. Il n'y a pas de principe de régulation de cette compétitivité. Donc, si elles ont sur le même territoire, elles ne peuvent pas coexister indéfiniment. Tôt ou tard, il y en a une qui va être éliminée. Et dans le monde économique, c'est un petit peu ce qu'on constate. On ne peut pas. Il peut y avoir quelquefois, heureusement, des régulations, mais qui sont quand même assez faibles, qui permettent justement de garder une saine compétition, une saine concurrence, on pourrait dire. Mais ce n'est pas une compétitivité à outrance qui exclut l'autre et qui veut quelque part la mort de l'autre, qui veut toujours être avoir le dessus sur l'autre. Il y a un économiste qui a écrit un livre sur l'homo economicus. Et alors lui, il plaide pour justement qu'il y ait un équilibre entre une compétition, une coopération, entre une concurrence, une réciprocité. Et je trouve que c'est assez intéressant ce qu'il dit. À un certain moment, il dit « Le problème de nos sociétés, c'est qu'il n'y a plus d'équilibre entre compétition et coopération. » Dans les années 50 et 60, le souvenir de la barbarie était encore présent dans les mémoires. Il y avait certains comportements qui n'étaient pas acceptables. D'autant que la croissance était là. Avec le début de la crise dans les années 70, puis l'émergence d'un capitalisme financier dans les années 80 et la révolution d'Internet, la compétition n'a fait que croître au détriment de la coopération, détruisant l'équilibre qui existait. Les gestionnaires ont repris la main face aux entrepreneurs. Le management par le stress est devenu banal. Mais cette course perpétuelle pour la performance et la rivalité instituée entre les personnes est contre-productive, parce qu'elle génère un déséquilibre coûteux pour la société en termes de santé, d'écologie et de vie. Je trouve que il me semble que ça reflète quand même un peu la situation actuelle, justement d'une compétitivité où, voilà, exclusive dont parle le pape François dans ses numéros 53 et 54, où quelque part, voilà, il y a vraiment une lutte mortelle, on pourrait dire, très souvent dans l'économie. Et à l'inverse de ça, alors, aussi, on peut le voir aussi, pour ne pas le voir seulement chez les autres, de voir aussi comment dans nos familles, dans nos communautés, qu'est-ce qui est bon dans une certaine émulation, on pourrait dire, et quand même une certaine limite à mettre dans l'émulation. Je pense qu'on a besoin d'émulation, et puis qu'il y ait un vainqueur à une course à pied, je trouve que c'est bien. Mais après, c'est comment il y a un certain équilibre qui fait que celui qui est deuxième, il n'est pas quand même éliminé d'une certaine manière. Et dans nos familles, ou dans nos communautés, est-ce que, justement, quels sont les critères qui font que quelqu'un peut exister? Est-ce que c'est parce qu'il réussit mieux que l'autre? Est-ce que, sinon, ça devient une compétition, une compétitivité exclusive ou d'exclusion qui exclut les autres. Et dans notre société, c'est vrai que ça marche quand même pas mal comme ça, mais nous, quelquefois, dans notre manière de faire, on peut procéder comme ça. Peut-être pour être plus concret, en communauté, si on fait un apostolat, est-ce que je choisis uniquement les frères qui ont des capacités plus visibles et les autres, ils restent un peu sur la touche, tu peux prier pendant ce temps-là, Ou est-ce que je réfléchis à la manière de les intégrer aussi dans un apostolat? Alors peut-être que tout le monde ne peut pas faire la même chose, ça c'est vrai, il faut être réaliste. Mais en même temps, comment je peux vraiment donner une vraie place, pas simplement une place pour de consolation, mais une vraie place à chacun dans une communauté, dans une famille? Sinon, à un certain moment, c'est appliqué à la famille, ce que dit le pape François, ça pourrait valoir aussi pour nos familles, pour nos communautés aussi à certains moments. Il n'y a que ceux qui ont des dons particuliers qui ont leur place sous le soleil. Les autres, bon, voilà, on les, par compassion chrétienne, on les accepte, mais sans plus. Et à l'inverse de ça, donc, j'aime bien, parce que Jean Vanier parle souvent de cette question-là, hein, puisqu'il est proche des personnes handicapées. Il a écrit un livre, si mes souvenirs sont bons, il est sorti cette année, sur la Jésus vulnérable. Et alors, il nous invite à nous mettre à l'école de la vulnérabilité, de la fragilité de Jésus, justement parce que dans notre époque, on tend plutôt à valoriser la force, la puissance, la compétition. Et Jean Vanier a des idées très, très intéressantes. Les faibles enseignent aux forts à accepter et intégrer la faiblesse et la brisure dans leur propre vie. La majorité des gens ne s'épanouissent vraiment que lorsqu'ils sont accueillis tels qu'ils sont, avec leurs dons et leurs faiblesses. En un sens, la faiblesse est un don et une opportunité. La faiblesse devient une force d'attraction qui nous rassemble et qui crée par exemple la solidarité autour d'une personne blessée qui a besoin d'aide. La vulnérabilité peut pousser les gens à donner davantage d'eux-mêmes, à s'ouvrir et révéler leur propre imperfection. Par contraste, la force ou l'excellence, bien que souvent impressionnante, tendent à diviser par l'esprit de compétition et la crainte de ne pas être à la hauteur. Alors, il y a Jean Vanier, hein, quelquefois parle justement de la faiblesse qui est comme un ingrédient essentiel pour la communion entre les personnes. Je pense que vous le vivez aussi en famille et puis on le vit en communauté. Quand on... je reviens un petit peu en arrière. Je disais qu'il y avait la compétitivité, la compétition à outrance. Après, il y a ce que disait cet économiste, il y a un équilibre entre compétition et coopération. Mais là, c'est encore autre chose que nous dit Jean Vanier, parce que la coopération, ça suppose chacun qui a une certaine compétence. Mais là, c'est plutôt le fait que quand on est en situation de faiblesse, on permet à l'autre de nous donner. Et ça permet qu'il y ait des relations à double sens, et non pas simplement celui qui donne et celui qui reçoit. Quelquefois, je prends un exemple tout bête, hein, pour imaginer ça. Parce que souvent, on est plutôt dans la version du fait de donner, mais pas tellement dans le fait de recevoir. Alors un jour, monsieur est très bien disposé, il veut aider son épouse à faire du ménage. Donc, ça arrive, hein? Après, vous me direz pourquoi ça n'arrive pas, peut-être, je ne sais pas. Alors monsieur est très bien disposé, c'est la fête des mères, tout ça, donc il fait du ménage, il fait... le tour de tous les objets, voilà. Madame arrive. Non, mais il faut déplacer. Voilà, tu donnes et tu remets. Voilà, c'est quand même mieux comme ça. Et bon, le pauvre, il voulait lui faire plaisir, mais ça n'a pas trop marché. Et puis 15 jours après, il a oublié le conseil. Il veut encore lui faire plaisir quand même. Mais rebelote, elle lui dit, mais non, il faut tout défaire et après, tu... Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire, une petite expérience comme ça? Ça veut nous dire qu'il faut permettre aussi à l'autre de nous donner à sa manière à lui. Si je veux qu'il me donne tel que je veux et pas autrement, mais peut-être que l'autre pourra plus me donner. Après, il ira voir des gens plus conciliants avec lui, et puis voilà, il se donnera à d'autres personnes. Enfin, j'exagère, hein, parce que... Mais tout ça pour dire que, du coup, Jean Vanier parle de la communion, que de la faiblesse comme un ingrédient aussi pour la communion. Et je trouve qu'il faut être en mesure de recevoir aussi de quelqu'un, peut-être qui n'a pas forcément des compétences extraordinaires à me donner, mais voilà, dans quelle mesure je suis capable de recevoir. Parce que, voilà, autant la compétition crée l'exclusion, autant la faiblesse bien vécue peut conduire à la communion. Dans ce paragraphe, dans ces paragraphes 53 et 54, je parle encore quelques minutes ou pas, ou ça je le fais cet après-midi? Je demande à la chef. Ce sera peut-être un peu plus simple. Alors, je vous dis juste le mot et puis après, je reviendrai dessus. J'ai le temps. Bon, j'ai un temps. Très bien. Alors, c'est sur l'indifférence. Le pape François revient très souvent sur ce thème de l'indifférence. Quand il était allé à Lampedusa en juillet 2013... Il avait parlé de la globalisation de l'indifférence, la mondialisation de l'indifférence. Nous sommes habitués à la souffrance de l'autre, cela ne nous regarde pas, ne nous intéresse pas, ce n'est pas notre affaire. Et d'ailleurs, le message pour la paix qui vient d'être publié cette semaine, pour le 1er janvier 2016, c'est sur ce thème encore de l'indifférence. Donc c'est un thème qui lui tient très à cœur. Alors, je vous lis quelques extraits de cette lettre, de ce message pour la paix que le pape François nous donne. Il est certain que l'attitude de l'indifférent, de celui qui ferme le cœur pour ne pas prendre en considération les autres, de celui qui ferme les yeux pour ne pas voir ce qui l'entoure, ou qui s'esquive pour ne pas être touché par les problèmes des autres, caractérise une typologie humaine assez répandue et présente à chaque époque de l'histoire. Cependant, de nos jours, cela a dépassé nettement le domaine individuel pour prendre une dimension globale et produire ce phénomène de la globalisation de l'indifférence. Alors, la première forme de l'indifférence dans la société humaine est l'indifférence envers Dieu. Alors, il développe, mais je ne vais pas le développer ce matin. Et ensuite, il y a l'indifférence envers le prochain qui prend différents visages. Elle a des descriptions souvent qui sont assez pertinentes. Il y a celui qui est bien informé, écoute la radio, lit les journaux ou assiste aux programmes télévisés. Mais il le fait de manière tiède, presque dans une condition d'accoutumance. Ces personnes connaissent vaguement les drames qui affligent l'humanité, mais elles ne se sentent pas impliquées, elles ne vivent pas la compassion. Cela, c'est l'attitude de celui qui sait, mais qui garde son regard, sa pensée et son action tournés vers lui-même. Malheureusement, nous devons constater que l'augmentation des informations propres à notre époque ne signifie pas en soi une augmentation d'attention aux problèmes, si elle n'est pas accompagnée d'une ouverture des consciences dans un sens solidaire. Bien plus, elle peut entraîner une certaine saturation qui anesthésie et, dans une certaine mesure, relativise la gravité des problèmes. Alors, il voit, du coup, cette incapacité, quelquefois, d'éprouver de la compassion pour les autres, pour leurs drames. Prendre soin d'eux ne nous intéresse pas comme si ce qui leur arrive était d'une responsabilité extérieure à nous qui ne nous revient pas. Alors ça, c'est un constat qu'il fait souvent. Et alors, comment sortir de l'indifférence? Moi, j'aime bien l'évangile du bon samaritain, de voir un peu comment ça se passe. Après, il n'y a pas une recette toute faite, hein, mais il y a peut-être des choses qui peuvent nous aider. Je me rappelle d'un petit déjeuner, je ne sais pas si je dois le dire, mais bon, j'y vais. Un petit déjeuner en communauté un dimanche matin. Un frère était allé à Paris la veille et avait été impressionné par ceux qui n'avaient pas de toit, les SDF. Et du coup, quand il était revenu le soir, il dit « Moi, j'ai une chambre chauffée, tout ça. Moi, je suis quand même pas mal. » Et il avait du mal à dormir en pensant à tous ces gens qui... Bon, ça ne le laissait pas indifférent. Et puis donc, il en parle tout simplement au petit déjeuner. Et c'était le dimanche matin. En semaine, on ne parle pas, mais le dimanche matin, on parle. Et un autre frère lui dit « Oui, mais souvent, s'ils sont dans la rue, il y a aussi d'autres causes, etc. Voilà. » Mais je trouve que c'était assez typique. C'est pas forcément cette réaction qu'on pouvait attendre. Bien sûr qu'il peut y avoir d'autres raisons. Mais lui, il ne se posait pas la question des raisons qui avaient conduit ces gens à la rue. Il disait, ben, les pauvres, ils ont froid. Et alors, il n'était pas dans le fait de porter un jugement. Voilà, simplement, ça l'attristait de voir des gens qui avaient froid. Alors, bien sûr qu'après, il y a des actions peut-être à poser, etc. Mais quelquefois... Sous prétexte des actions imposées, ben du coup, on ne voit pas quoi faire. Et du coup, voilà, c'est leur problème, finalement, de dormir. Et alors, dans la parabole du bon samaritain, je trouve que c'est assez... Donc, c'est en Saint-Luc, chapitre 10, versets 25 à 37. On voit la réaction des uns et des autres. Alors, Benoît XVI avait fait un beau commentaire de cette parabole dans son livre sur Jésus de Nazareth. Il dit que, finalement, c'est pas sûr que le prêtre et le lévite qui étaient passés et puis s'étaient pas arrêtés, c'est pas sûr que c'était des gens qui n'avaient pas de cœur. Mais peut-être, voilà, je vous le cite, il n'est pas du tout certain qu'il s'agisse d'hommes sans cœur. Peut-être avaient-ils peur eux-mêmes et essayaient-ils d'atteindre la ville le plus vite possible. Peut-être étaient-ils maladroits et ignoraient-ils ce qu'ils devaient faire pour aider. D'autant plus que de toute façon, il n'y avait apparemment plus grand-chose à faire. Et alors, donc il passe parce qu'il dit « qu'est-ce que je peux faire ?» Et alors, le Samaritain arrive... Et je cite encore Benoît XVI, « Il ne demande pas jusqu'où s'étendent ses devoirs de solidarité, ni quels mérites lui assureront la vie éternelle. Les choses se passent autrement. Il a le cœur déchiré. Il fut saisi de pitié. Grâce à l'éclair de miséricorde qui frappe son âme, c'est maintenant lui qui devient le prochain de l'autre sans se poser la moindre question ni se soucier du moindre danger. » Et alors, il devient le prochain. Vous rappelez, Jésus a... Toute cette parabole, c'est pour répondre à la question du scribe qui dit « Mais qui est mon prochain ?» Et alors, Jésus inverse les choses. Si la question avait été « Le Samaritain est-il lui aussi mon prochain ?» La réponse aurait été, dans la situation donnée, un « Non » sans équivoque. Mais Jésus renverse les choses. Le Samaritain, l'étranger, se fait lui-même mon prochain et me montre que je dois apprendre par moi-même de l'intérieur à être le prochain de tous et que la réponse se trouve déjà en moi. Il me faut devenir quelqu'un qui aime, une personne dont le cœur se laisse bouleverser par la détresse de l'autre. C'est alors que je trouverai mon prochain, ou plus exactement, c'est alors que je serai trouvé par lui. Il se peut que le prêtre et le lévite aient passé leur chemin par crainte plus que par indifférence. Nous devons réapprendre de l'intérieur à prendre le risque de la bonté. Et nous ne pourrons le faire que si nous devenons nous-mêmes intérieurement bons, si de l'intérieur nous nous faisons le prochain des autres et si nous cherchons alors à savoir quelle façon de servir nous est demandée autour de nous et dans le cercle plus large de notre vie, quelle façon de servir nous est individuellement possible et par là même assignée. Donc il y a plusieurs étapes dans l'approche du bon samaritain qui fait que finalement il n'est pas indifférent, ou en tout cas il s'arrête. C'est déjà, il est saisi de pitié. Et je pense que c'est un beau sentiment aussi, la pitié. Il y a quelque chose de beau dans la pitié de pas devant la misère de l'autre. Il ne regarde que la détresse et la souffrance, et sans s'arrêter par toutes les raisons. Et après, il s'approche. Tandis que les autres, ils passent, mais ils s'écartent plutôt. Et c'est en s'approchant, justement, qu'il voit ce qu'il peut faire aussi. Parce que si on ne s'approche pas... Alors, c'est risqué de s'approcher. Quand Jean Vanier est venu, il est donc venu il y a une ou deux semaines, c'était pour parler aux prêtres du diocèse, il y a deux semaines. Et après, à table, il disait que, justement, quand il y avait quelqu'un dans la rue qui faisait la manche... Une fois qu'on commence à parler avec la personne, ça devient dangereux parce que son histoire, elle ne me reste pas indifférente. Enfin, alors, mais on voit bien aussi entre le moment où le prêtre et le lévite disent « Oh là, je ne crois pas que je peux faire quelque chose, tout ça », et puis ils vont vite. Et puis lui, il s'approche et à partir du moment où on est pris dans l'histoire de l'autre, à un certain moment, on ne peut pas... Alors, c'est dangereux. Alors, bon, il y a certainement une prudence, bon, il y a certains... Mais en même temps, pas trop vite dire « Bon, voilà, c'est pas mon problème, et puis je passe. » Bon, on n'a pas forcément de... Je vous propose pas une solution mathématique simple, et voilà. Mais toujours est-il que le Samaritain, c'est lui qui s'est approché, et du coup, il a fait ce qu'il a pu, il l'a mis sur sa monture, il a lavé les plaies avec de l'huile et du vin, et voilà. Et puis après, il va jusqu'au bout, donc il l'emmène à l'auberge, etc. Voilà. Et... Donc, j'aime bien cette parabole du bon samaritain, justement, qui peut-être nous aider, justement, à sortir d'une forme d'indifférence, bon, qu'on a plus ou moins, mais qu'on étaye quelquefois par des bonnes raisons, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas soulager toute la misère du monde, ça c'est vrai, mais peut-être les gens qui sont sur notre chemin, peut-être qu'on peut faire quelque chose. Voilà.